Voilà. Donc nous allons commencer, si vous m'entendez bien tous, cette séance. Donc bonsoir à toutes et tous. Nous vous remercions chaleureusement et en premier lieu notre invité, Pierre-Damien Huyghe, pour avoir accepté de jouer le jeu de la rencontre à distance. Nous vous prions, comme il est d'usage avec ce type de dispositif, mais je crois que tout le monde est déjà habitué, de bien vouloir garder vos micros éteints pendant la rencontre, sauf bien sûr à intervenir au moment de la discussion qui suivra la conférence. En revanche, comme je l'ai dit depuis le début, n'hésitez pas à brancher vos caméras si vous le pouvez, si vous en êtes d'accord, parce qu'il est toujours plus stimulant pour un conférencier de voir les visages pour adresser sa parole et ne pas avoir le sentiment de parler à soi-même ou à sa machine. Alors, je dirai d'abord quelques mots qui préciseront les raisons de ce séminaire, puis je donnerai la parole à ma collègue Alix de Morand qui présentera notre invité avant, à son tour, qu'elle ne la lui cède pour sa conférence. Alors, nous vous demandons d'éviter d'utiliser le chat pendant ce temps-là, c'est-à-dire pendant le temps de la conférence, afin de laisser le champ libre à la parole et à l'écoute, comme on le fait dans une vraie conférence. Nous vous invitons en revanche à l'utiliser au moment de la discussion. Alix se fera le relais auprès de notre conférencier de vos remarques ou questions écrites. Et bien sûr, vous aurez la possibilité d'intervenir en branchant votre micro, si possible en indiquant votre intention en amont dans le chat, afin que tout simplement vous ne soyez pas plusieurs à brancher vos micros simultanément pour des questions de brouillage sonore. Voilà, c'est là que l'absence des corps en présence influe sur l'agilité et l'intempestivité des échanges qui sont rendus d'une certaine façon impossibles. Alix de Morand et moi-même sommes donc particulièrement heureuses d'accueillir Pierre-Damien Huyghe dans le cadre du séminaire d'actualité du laboratoire de recherche ERA21 de l'Université Paul Valéry de Montpellier, d'autant que cette rencontre s'est fait attendre pour avoir été reportée du mois de mai, de mars même dernier. Mais les contretemps, l'ouvrage qui motive cette invitation en témoigne, ont aussi leur vertu, celle en l'occurrence de nous faire réfléchir au temps ici empêché de la recherche, qui participe expressément de la réflexion engagée dans le livre de 2017 publié aux éditions B42 que je vous montre si vous le voyez. Je ne sais pas si je suis face à ma caméra. Le voici. 2017, autre contretemps peut-être pour un séminaire dit d'actualité. C'est d'une part que l'invitation en fut imaginée en 2019, le contexte en ayant donc décalé la tenue. Mais plus fondamentalement, je n'hésite pas à soutenir que l'ouvrage est d'une actualité brûlante, la dite loi de programmation de la recherche le démontrant par son seul intitulé, et dépasse au demeurant très largement dans son questionnement éclairé des formes, des formats et du temps de la recherche, la seule interrogation sur les enjeux de la recherche en art, dans les essentielles nuances que le livre instaure à partir du jeu prépositionnel entre recherche en, avec et sur l'art. Bref, ce livre nous concerne fondamentalement, enseignants-chercheurs comme étudiants. C'est d'abord la problématisation à la fois historique, institutionnelle, politique, philosophique des rapports entre art et recherche que déplie l'ouvrage, qui a motivé notre invitation de Pierre-Damien Huyghe au sein d'un laboratoire pluridisciplinaire où se côtoient et surtout conversent littérature française et francophone moderne et contemporaine, art du spectacle, théâtre, danse, cirque, marionnette, art plastique, jeux vidéo, cinéma, art numérique, musique. Le nouveau programme transversal du RIRA21, précisément engagé sur la recherche en création, se trouvant au premier chef requis par les analyses conduites dans contretemps. Mais c'est plus largement, je le disais, toutes les composantes de notre centre qui, pour se situer dans la perspective commune une défense questionnante des arts et de la littérature au sein et de l'université et de la société, se révèle directement concernée par les propositions et propos intempestifs des deuxième et troisième chapitres, ce sont les titres, qui à la suite des repères lunaires font de contretemps un viatique précieux. Pourquoi ? Parce que le livre méditant conditions, formes et enjeux d'une recherche en art, ne peut que retourner à chacun la question de sa propre inscription professionnelle, mais au-delà, ou plutôt peut-être en deçà, existentielle. Le livre n'esquisse-t-il pas, en dernière analyse, je cite, « la condition politique de l'humanité ». Et c'est cela qui, je crois, nous attache à une réflexion dont la logique scalaire rigoureuse le dispute à un approfondissement permanent des questions soulevées, induit par une construction de type spiralique, donc à la fois logique d'échelle et logique de la spirale. Le très juste nouage qui opère entre analyse pragmatique et distance philosophique, entre prise en considération de l'époque et accueil de l'intempestif, cette plasticité focale se reprenant à une attention aiguë aux mots par lesquels nous autres animaux parlants, à reprendre la formule d'Aristote que reprend votre ouvrage, nous sommes parlés, mots dont il importe par conséquent d'entendre et de les déjouer, les sourdes et parfois obscures injonctions, à commencer par le vocable recherche. On pourrait ainsi soutenir que Contre-temps est un livre qui prend le temps d'écouter les mots, la façon dont certains en remplacent d'autres, ou dont ils entrent en dialogue, voire en débat. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Alice. Il m'importe enfin de relever deux qualités majeures d'un livre qui présente, en outre, le mérite rare de les articuler. La clarté et le sens de la complexité. Clarté qui, on le pressent, est redevable d'un souci pédagogique, soit d'une attention à l'autre, dont on comprend qu'elle est aussi la condition de possibilité de formulation d'une pensée méthodique, c'est-à-dire proprement en chemin avec l'autre. C'est du reste tout l'enjeu d'une conférence. Pour autant, la clarté du propos, je le disais, fait droit à la complexité des faits, de l'histoire, des enjeux qui traversent le champ de la recherche, et jamais ne cède à la simplification péremptoire. Contre-temps, c'est la valeur de la nuance, et à l'image de ce qu'il défend, prend le temps de ne pas être dans l'énonciation performative pour lui préférer l'inactualité d'une pensée proprement opérante. Avant de céder la parole à Alix de Morand, qui ne manquera pas de développer ce dernier aspect, je me permets, cher Pierre-Damien Ligue, de vous remercier, et c'est à cet endroit la littéraire en moi qui parle, pour avoir écrit cette phrase, cette simple petite phrase à la page 55 de votre ouvrage, je cite, « Une société n'est pas une machine, mais un ensemble à histoire. » Je laisse chacun la méditer. Alix, je te donne la parole.
Merci beaucoup, Marie, pour cette introduction. Donc, je vais enchaîner avec une présentation de notre invité. Donc, Pierre-Damien Huyghe, merci d'être avec nous ce soir et je vais revenir un tout petit peu sur votre parcours aussi parce que je pense qu'il est important qu'une parole soit située et donc il m'importait aussi de recadrer ce propos dans l'ensemble d'une œuvre qui est fort riche. Donc vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 du Panthéon Sorbonne et vous avez d'ailleurs été à ce titre parmi les premiers à encadrer des thèses de recherche avec l'art dans le domaine du design. Donc, du point de vue de la philosophie, Pierre-Damien Huyghe situe ses analyses dans un cadre qui s'étend d'Aristote, dont il a fait de nombreuses lectures, dont le Différent esthétique, paru aux éditions Circé en 2004, jusqu'à Bruno Latour, Moderne sans modernité en 2009 aux éditions Ligne, en passant par Walter Benjamin, Du commun, édition Circé 2002, Michel Foucault, Bernard Stiegler ou Giorgio Agamben. Ses recherches portent sur l'esthétique, notamment sur les conditions d'ouverture des conduites artistiques. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages de philosophie de l'art et des techniques, exégète des rapports entre art et industrie, il s'intéresse à la manière dont l'art dispose ou redispose ses opérations, et cela à diverses époques, afin de redéfinir l'articulation entre une technique, par exemple la peinture, et une méthode, celle d'un Cézanne, d'un Klee ou d'un Kandinsky, par exemple. Et là, je cite un passage de Contre-temps. Donc, ces trois peintres qui ont redisposé le fait et le faire de la peinture. avec le même matériel, en indisposant tout un ordre de travail, ils ont tout de même fait quelque chose, d'autre chose. Et ils l'ont fait parce que leur esprit n'était pas focalisé sur le registre du discours, de l'action et même de l'expression. Je vous suis gré, Pierre-Damien Huyghe, d'avoir redonné au mot « disposition » son potentiel heideggerien d'ouverture, de découverte, mais aussi d'avoir ainsi rehaussé sa valence existentielle et phénoménologiquement intégrative qui fait la part à notre activité d'être là, disposé à accueillir l'imprévu. Donc, on doit à Pierre-Damien Huyghe de nombreux essais qui mettent en perspective des moments clés de l'histoire des arts et des transformations esthétiques, dont par exemple « Une philosophie du Bauhaus », un essai sur le cinéma « Le cinéma avant-après », le coffret constitué de plusieurs cahiers qui ensemble relient à ce à quoi tient le design et la direction d'un ouvrage collectif, l'art au temps des appareils. Outre ses observations sur la façon dont l'art évolue et se transforme, consécutivement à ce que Pierre-Damien Huyghe identifie comme des poussées technologiques, il redonne pour moi au travail de l'art sa véritable importance en tant que métier, démontrant qu'il n'y a pas une seule conduite, mais une pluralité d'instants décisifs auxquels il convient de prêter attention. Il s'intéresse également aux conditions d'existence des arts dans le champ culturel, dénonçant le rôle souvent prescriptif des institutions, comme leur discours qu'il s'attache justement à décrypter pour mieux le déconstruire. Il a ainsi consacré plusieurs ouvrages à une critique de la postmodernité, dont entre autres « Éloge de l'aspect », élément d'analyse critique et paradoxale de l'industrie comme divertissement, ça c'était en 2006, et Moderne sans modernité, éloge des mondes sans style aux éditions Ligne en 2009, mais toujours en se recentrant sur l'objectif d'en revenir au caractère particulier de la relation entre des matériaux et des opérations et en appréhendant les œuvres dans leur relation avec le temps qui les fait émerger. Ainsi, Pierre-Damien Huyghe, en lecteur averti de Walter Benjamin, en revient dans ses écrits à une archéologie des concepts, cherchant à voir comment chaque œuvre dialogue avec son époque, comme avec des époques antérieures, dans une friction toujours entre l'actuel et l'inactuel. Alors, après l'avoir entendu donner ses conclusions lors du colloque du RESCAM, qui est donc ce réseau des écoles doctorales, création, art, médias, dont le RIRA 21 fait partie en novembre de 2017, nous avons déjà pensé à le recevoir à cette époque-là pour son essai qui est paru la même année aux éditions B42. Et cet essai, donc contre-temps, reformule d'ailleurs quelques-uns des points qui avaient été abordés lors de cette séance conclusive, comme dans d'autres conférences où Pierre-Damien Huyghe se proposait de réfléchir à l'alliance entre les notions d'art et de recherche en art et où, de recherche-création, mais on reviendra sur ce terme de recherche-création. Donc, en 2017, Marie l'a justement noté, il s'agissait surtout d'analyser une nouvelle configuration du paysage institutionnel dans la suite des polémiques initiées autour de la réforme LMD, réforme qui a conduit les écoles d'art à répondre à l'injonction qui leur a été faite de faire de la recherche, ce qui, en réaction à l'impératif de la contrainte, a entraîné cette attitude qui consistait à performer le vocable recherche plutôt que de se risquer à formuler de nouvelles hypothèses. Et là, je cite un nouveau passage d'un de vos essais plus récents de 2019, où vous dites, Pierre-Damien Huyghe, « Ce qu'on n'examine pas assez à chaque fois qu'on admet une déclaration comme « Je suis chercheur » ou « Nous sommes une équipe de chercheurs », c'est ce qui se tient ou devrait se tenir en préalable de cette déclaration pour qu'elle ne se tienne pas seulement dans l'ordre d'une assertion performée. Je viens de dire ma position sur ce point. Il faudrait d'abord une certaine expérience. Donc, on reviendra également sur ce terme d'expérience. Mais en 2017, le terme de recherche semblait vous apparaître comme un identifiant baladeur dont il fallait s'accommoder, sans se donner la peine de le remettre en doute. C'est pourquoi le projet de contretemps, à sa parution, était donc un parti pris qui pouvait sembler déjà anachronique, celui d'en revenir aux définitions en historicisant justement cette articulation entre science et recherche. Il s'agissait donc alors de prendre le contre-pied du discours ambiant et de se situer à contre-courant pour mieux comprendre les réels enjeux d'une recherche depuis l'art et situer ce que recouvrait ce vocable de recherche, de sorte de pouvoir mieux s'approcher d'une activité, la recherche, dans un contexte qui était un contexte déjà à l'époque et qui ne s'est pas arrangé depuis, politique et économique, d'un merchandising des savoirs où l'innovation prenait le pas sur l'inventivité et où le formatage des formations avait remplacé le plus souvent l'étude, une étude qui n'en demeure pas moins pour le philosophe que vous êtes, ce cheminement constant marqué par l'incertitude spécifique aux questionnements auxquels aujourd'hui vous invitez vos lecteurs. En 2017, ce réel impensé de la réforme LMD obligeait les écoles d'art et les universités à se repositionner pour soumettre à l'examen ce terme « recherche » et nous espérons aujourd'hui vous entendre sur la manière dont les cartes ont pu, dès lors, être redistribuées, alors que dans votre livre, vous posiez comme préalable cette interrogation, et je vous cite « Comment pouvons-nous les uns et les autres, universités et écoles, ne pas nous mettre en concurrence ni rivaliser dans le stress qui nous est fait, mais au contraire nous entendre ? Je propose à cette fin de reprendre en la reformulant la distinction entre trois sortes de recherches possibles, la recherche sur l'art, celle en art et celle avec l'art. » Fin de citation. Il fallait donc en 2017 sortir d'une forme de sidération pour contempler ce que signifiait la recherche en art. En 2021, alors que nous sommes à nouveau plongés dans un état de sidération pour de toute autre raison, il convient de découvrir ce que vous nous avez à nous dire sur cette articulation parfois très conflictuelle entre recherche et création. Et nous aimerions nous interroger avec vous sur la manière dont on peut aujourd'hui, à l'université comme dans les écoles d'art, concevoir une recherche depuis l'art qui ne s'inscrirait pas dans une logique de projet, mais privilégierait la richesse et la diversité des expériences, quitte à semer le trouble, à ne pas se loger dans le moule et à ne pas s'inscrire dans la mode. Je vous laisse la parole puisque nous n'en sommes qu'au commencement et nous allons nous mettre au travail avec vous.
Eh bien, merci beaucoup à l'une et à l'autre pour ces présentations qui me vont droit au cœur, qui me touchent beaucoup. Merci. Je vais garder l'un des mots que je viens d'entendre tout à la fin. Je vais essayer de vous parler dans un temps que je vais essayer de mesurer pour qu'il reste du temps justement à la discussion, c'est-à-dire pour reprendre le mot, pour que nous puissions nous interroger ensemble. Disons que ce que je vais essayer de vous dire ce soir ne vise qu'à ça, y compris dans les moments où peut-être je pourrais vous donner le sentiment d'affirmer quelque chose que vous trouveriez discutable. Prenez-le comme une occasion justement pour lancer après une interrogation entre nous. Je pense qu'il ne faut pas tout à fait procéder quand on est comme maintenant en visioconférence, comme on fait quand on n'est pas en visioconférence, qu'on est dans un espace où nous sommes physiquement présents. C'est-à-dire qu'il faut peut-être un tout petit peu concentrer la parole et suivre le fil plus directement, droitement, aller peut-être plus vite, si vous voulez, à la conclusion pour que justement la nécessaire discussion puisse se développer. Donc, je ne vais pas faire d'introduction. Il y en a eu deux magnifiques avant que je parle. Je vais juste vous dire, en guise d'introduction, que je vais développer ou tenter de développer un raisonnement en trois points, qui sera conclu ensuite rapidement. Voilà. Et donc, voici, sans introduction particulière, le premier point. Si j'ai écrit mon livre, et en fait, il faudrait même que je dise si j'ai pensé à l'écrire à un moment donné, c'est parce que recherche était devenu un maître mot, ce que j'appelle un maître mot dans le livre. En fait, ce n'est pas moi qui appelle les maîtres mots, j'ai emprunté ça, notamment une lecture d'Étienne Balibar. Mais il me semble que recherche était devenu un maître mot, c'est-à-dire un signifiant qu'il fallait placer pour manifester ce que j'appellerais ce soir une obédience. Il fallait placer ce mot pour se montrer, si vous voulez, obéissant à la période, à la phase historique dans laquelle nous sommes et où nous étions destinataires d'une injonction. Il fallait placer le mot. Pour les étudiants qui sont là, je dirais que ça pouvait se manifester très simplement chez les professeurs que nous étions, par le fait qu'on ne pouvait pas, comme on dit, faire remonter un dossier, par exemple pour faire valoir un intitulé de diplôme ou un parcours de formation, sans que le mot soit écrit quelque part. Voilà. C'est ça que j'appelle une injonction, il fallait placer le mot pour manifester donc une obédience. Cette situation n'impliquait pas qu'on entende dans ce mot une signification particulière. Il me semblait, à ce moment-là, qu'à défaut de pouvoir nous soustraire à l'injonction qui nous était faite, nous pouvions, et même nous devions, de notre côté, travailler à définir le terme. C'était là, et c'est toujours là, à mon sens, la condition, d'une part, pour que nous ne demeurions pas exigés, et dans cette situation affolée par une demande au fond exorbitante, c'était une demande exorbitante puisqu'il fallait placer le mot, j'allais dire, même là où au fond, j'y reviendrai naturellement dans mon exposé, il n'avait pas vraiment de signification, il fallait le placer quand même. Donc, il me semble que chercher malgré tout à donner à ce mot une signification qui pourrait nous convenir, c'était la condition pour que nous ne demeurions pas exigés et dans cette situation d'exigence affolée par une demande exorbitante, et c'était d'autre part la condition pour sauver la recherche elle-même de l'excès qui était en train de lui advenir. Alors, est-ce que la situation aujourd'hui est tout à fait semblable ? C'est au fond l'une des questions que vous m'avez adressées dans votre introduction tout à l'heure. Est-ce que la situation aujourd'hui est tout à fait semblable ? Je vais faire une réponse en deux temps, pour moi, si vous voulez, et peut-être faudra-t-il dans un deuxième temps que j'élargisse, bien entendu, parce que la réponse à pareille question ne saurait être ma réponse ou mon rapport à la réponse. Mais est-ce que la situation est aujourd'hui tout à fait semblable ? Pour ce qui me concerne, je crois être parvenu à clarifier ce que je pouvais, j'insiste encore une fois, pour ce qui me concerne, proposer institutionnellement. Je crois être parvenu, autrement dit, au bout d'un certain travail de proposition pour ce qui me concerne, ce qui ne veut pas dire que nous sommes tous parvenus au bout du travail de proposition. Je suis pour moi au bout d'un certain chemin. Ce que je pouvais proposer institutionnellement, ce que je propose toujours, c'est qu'on distingue, pour penser l'ensemble du cursus qui va de la L1 jusqu'au doctorat, c'est qu'on distingue entre apprendre, étudier et chercher. C'est-à-dire que je pense qu'il y a trois sortes de choses à faire à l'université qui ne sont pas de même nature, et que je nomme par ces verbes qui impliquent des relations différentes entre, par exemple, les maîtres de conférences et les professeurs, ou les enseignants d'une manière générale, et les étudiants, hein, bien que ça serait mieux que je n'utilise pas ces mots qui définissent. Il y a peut-être des niveaux dans lesquels il faut apprendre, d'autres où il faut étudier, et d'autres où il convient de chercher. Donc c'est ma proposition institutionnelle qu'on distingue entre ces trois notions, apprendre, étudier, chercher, et qu'on réserve à chacun de ces éléments, d'une part apprendre, d'autre part étudier, enfin chercher, son temps propre dans l'institution, son mode de relation particulier et, je dirais même, son attitude propre. C'est-à-dire qu'au fond, je n'ai pas la même attitude quand je cherche à apprendre quelque chose à un public qui m'écoute, quand je cherche à le faire étudier et quand je cherche à chercher avec lui. Je n'ai pas la même attitude et nous n'avons pas la même relation et tout ça ne peut pas se faire dans le même moment. C'est ma proposition institutionnelle. Il y va, à mon avis, d'éléments qui sont là, aptes à nourrir une sorte de cahier de revendications. Alors, je dirais, malheureusement, de mon point de vue, cette sorte de proposition que je me crois, j'allais dire, autorisé ou malin de faire, n'est guère discutée. Et elle l'est d'autant moins qu'elle ne va pas dans le sens d'un certain nombre de convictions éducatives et pédagogiques qui ont, en fin de compte, rendu acceptables les bouleversements institutionnels qui sont consécutifs au protocole de Bologne. Alors, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose aux plus jeunes, en tout cas, le protocole de Bologne, mais c'est, un programme qui a été décidé au niveau européen et qui a conduit à la mise en place des masters. Donc pour les plus jeunes, tout ça va de soi, mais moi je fais partie de la génération qui a connu la mise en place de tout ça. Donc le protocole de Bologne, c'est ce qui a conduit à la mise en place des masters, c'est ce qui a aussi conduit à l'inscription des doctorats dans un supplément de cursus, hein, puisque aujourd'hui, par exemple, il n'est pas rare d'entendre l'expression, alors on dit plus 3, plus 5, plus 8. Plus 3, c'est bac, plus 3, c'est la licence, plus 5, c'est le master, plus 8, c'est la recherche. Ce qui a une conséquence, c'est de sous-entendre que la recherche, c'est 3 ans, et que c'est une étape après le master. C'est juste un plus. Voilà. Si vous n'êtes pas si jeune, si vous n'avez pas la mémoire courte, ben vous savez que la recherche, ça a été bien autre chose qu'un plus 8. Et peut-être que c'est toujours, au fond, fondamentalement dans l'esprit, bien autre chose qu'un plus 8. Mais toute cette réforme énorme institutionnelle, mise en place des masters, inscription des doctorats dans un supplément de cursus, redéfinition des conditions de financement des laboratoires, déplacement consécutif des titres et des statuts. Voilà. Tout ça s'est appuyé, au fond, sur un certain nombre de convictions institutionnelles et je dirais même pédagogiques qui rendent, au fond, difficilement discutable le type de proposition que j'essayais de résumer il y a quelques minutes en disant « ça serait bien ». Il me semble que ça serait bien que nous distinguions entre les moments où on apprend, les moments où on étudie et les moments où on cherche. Peut-être c'est ce que je dis là trop allusif. Si c'est le cas, eh bien, posez-moi des questions tout à l'heure, je tâcherai d'être plus précis. Mais de mon point de vue, il en résulte que ce qui était peut-être encore discutable il y a une dizaine d'années, ça ne l'est plus guère aujourd'hui. Voilà. La collation des grades, par exemple, a cessé d'être l'apanage de l'université et je ne crois pas que beaucoup de personnes soient en mesure de discuter ça ou de le rendre rediscutable. à la recherche sont vouées désormais des institutions, les écoles d'art, et aussi les écoles d'ingénieurs, mais aussi des organismes privés divers. À la recherche, donc, sont vouées des institutions qui n'avaient pas cette vocation, qui ne l'ont donc pas de longue date, ils ne l'ont que très récemment. Et last but not least, dans le secteur d'études et de recherche qui aura été le mien, l'usage du syntagme recherche-création, j'y viens, s'est imposé. Alors, est-ce que, c'est l'une de mes questions pour ce soir, est-ce que ce syntagme, nous pouvons encore le discuter? Il est récent dans l'histoire, il est arrivé en même temps que toutes les modifications institutionnelles auxquelles je viens de faire récemment, allusion. Est-ce que ce syntagme, nous pouvons encore le discuter? En tout cas, je voudrais vous proposer ce soir au moins d'y réfléchir. Et ça sera, c'est l'essentiel de mon premier point. Par sa composition même, ce syntagme recherche-création semble bien destiné à satisfaire les créateurs autant que les chercheurs, puisque c'est son nom même consiste à associer les deux chercheurs et créateurs. Donc, il devrait satisfaire, peut-être est-il là pour ça, satisfaire en même temps les uns et en même temps les autres, à supposer que les uns et les autres ne soient pas les mêmes. Pourtant, il me semble que l'usage du mot « création » fait problème, et fait ici peut-être particulièrement problème. Au-delà du fait que ce mot « création » est chargé d'une histoire qui, aussi diverse soit-elle, et certes elle l'est, doit quand même beaucoup à la métaphysique et à la théologie. Si on fait la longue histoire, le mot création est chargé, métaphysiquement, très chargé, métaphysiquement et théologiquement, et que peut-être il faudrait que les artistes, quand ils revendiquent le mot, s'expliquent avec ça, avec cette charge métaphysique et théologique. Mais au-delà de ce fait-là, le mot création n'est-il pas, dans le syntagme recherche-création, là, à la place d'un autre mot? Est-ce qu'il y a, si j'ai cette question à l'esprit, c'est parce que je me suis demandé s'il y avait d'autres champs de savoir et de savoir-faire qui, pour dire leur rapport à la recherche, ne s'appellent pas de leur nom habituel. C'est un paradoxe de l'expression recherche-création, c'est qu'elle s'applique pour l'art et que par conséquent l'art serait un champ de recherche, mais qui ne dit pas son nom quand il fait de la recherche, puisqu'il dirait recherche-création et non pas recherche en art. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui font ça? Est-ce qu'il y a d'autres champs de recherche dans lesquels, au moment de faire de la recherche, d'une certaine manière, on cache son nom? Pourquoi ne pas dire recherche en art, comme on dit par exemple recherche en physique, en biologie, en médecine, etc. Si ces questions se posent, est-ce parce que ceux qui, étudiant, enseignant ou professant au nom de l'art, sont appelés à entrer dans l'obédience de la recherche, n'estiment pouvoir le faire qu'au nom d'une sorte de droit d'exception? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de situation singulière pour l'art qui ferait que pour que l'art entre dans le champ de la recherche, pour qu'il obéisse à l'injonction partout répandue, il faut en faire, et vous ne pourrez continuer à délivrer des diplômes que si vous placez le mot, est-ce que donc l'art ou le champ de l'art ne pourrait, répondre, satisfaire à l'exigence, répondre à l'obédience, qu'au nom d'une sorte de droit d'exception, qui ferait qu'il n'y aurait pas de recherche en art, mais de la recherche-création, il n'y aurait pas de recherche en art, comme il y a de la recherche en biologie, en physique, en chimie, en médecine, etc. Ceux qui sont appelés à rentrer dans l'obédience de la recherche en estimant pouvoir le faire au nom d'une droite d'exception, cela, si c'est le cas, si mon analyse ou mon hypothèse mérite qu'on s'y arrête un petit peu, ne saurait être exactement des chercheurs, mais seulement, j'enlève le seulement. Voilà. Nous ne saurions, dans le champ de l'art, être exactement des chercheurs, mais des chercheurs créateurs. Ce serait la spécificité du champ. Alors, la question, c'est de savoir si c'est, j'allais dire, une bonne idée, mais peut-être je devrais être plus proche de ce que je veux dire. Est-ce que c'est une bonne tactique? Est-ce que c'est une bonne façon de répondre à l'injonction que de ne pas se reconnaître seulement chercheur, mais de demander de se faire reconnaître comme chercheur-créateur? Alors, ce que peuvent être les conséquences avantageuses ou non, et de quel point de vue seraient-elles avantageuses? Ces conséquences. Ce que peuvent être les conséquences avantageuses ou non de pareille idée, l'avenir le dira. Mais aujourd'hui, je suis obligé de constater que le syntagme recherche-création est en train de s'imposer. Je crois pour ma part que cette situation contribue d'ores et déjà à autoriser, et c'est pourquoi je suis réservé à son égard, elle contribue d'ores et déjà à autoriser la mise en cause des statuts, puisque au fond, elle permet de penser qu'il y a chercheurs et chercheurs. C'est-à-dire, si nous ne nous plaçons pas dans notre champ, la recherche en art, mais que nous regardons la question, je dirais, de l'extérieur, mettons, pourquoi pas, du point de vue de ceux qui gouvernent tout ça. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ah, il y a des chercheurs qui revendiquent de ne pas être des chercheurs comme les autres. C'est bon pour une politique qui cherche à remettre en cause les statuts, puisque, au fond, ça revendique qu'il y ait chercheurs et chercheurs. C'est quand même un problème qu'à mon avis, il faudrait que nous nous posions. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons faire dès à présent, et c'était la perspective de mon livre, c'est de vérifier sa vérité, la vérité de ce syntagme. Est-il vrai qu'il ne saurait y avoir exactement de recherche en art? Je dirais comme il y a de la recherche dans les autres champs, la physique, la chimie, la sociologie, etc. Est-il vrai qu'il ne saurait y avoir de recherche en art que si on articule au mot recherche un autre mot, comme par exemple celui de création. Pour traiter méthodiquement cette question, il faut faire, je crois, ce qui n'a pas été fait, en tout cas ce qui n'a pas été énoncé par ceux qui ont fait de recherche un maître mot, à savoir, il faut définir la signification historique du mot recherche. Il faut commencer méthodiquement par là. Définir la signification historique du mot recherche. Quand nous saurons ce qu'implique ce mot historiquement, nous pourrons nous demander si cette implication est susceptible de quelque pertinence en art ou pas. Alors, c'est ce que je vais vous proposer de faire rapidement, évidemment, de façon seulement indicative, dans le deuxième point de mon exposé de ce soir. Donc, ces quelques éléments sur l'arrivée historique du mot recherche indépendamment du champ de l'art. Avec, encore une fois, cette idée que pour traiter méthodiquement de la question de savoir s'il peut y avoir de la recherche en art ou si en art il y a une situation particulière qui fonderait une appellation particulière comme recherche-création, eh bien, il faut commencer par se demander ce que c'est que ce mot recherche, ce que ce mot recherche veut dire, puisqu'au fond, personne ne nous l'a dit, en tout cas pas ceux qui nous ont enjoint de le placer, le mot. Alors faisons le travail. Donc, si vous voulez, deuxième point de mon exposé de ce soir. Recherche, alors je vais résumer, bien entendu. Recherche est un mot dont l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert ne fait pas grand cas. Donc, si c'est devenu un mot important, c'est après. si c'est devenu important qu'il est, si c'est devenu un mot, pardon, qu'il est utile, voire essentiel de placer, c'est venu après. Où le mot commence à avoir de l'importance, si mes recherches, si j'ose dire, sont exactes, où le mot commence à avoir de l'importance, c'est chez Claude Bernard, que vous situerez, disons, dans la deuxième moitié du 19e siècle, vers les années, on va dire, 1860. Ce que signale Claude Bernard, je suis en train de lire, si vous voulez, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, hein, qui est un texte paradoxal pour le sujet qui m'intéresse ce soir, puisque dans le titre, vous entendez qu'il y a le mot « étude », mais si vous lisez le texte, vous verrez apparaître le mot « recherche », et que précisément, c'est l'un des enjeux du livre, de prendre le mot qui est en cours à l'époque, le mot d'étude, pour lui substituer le mot qui va donc faire florès dans les milieux scientifiques de recherche. Ce que signale Claude Bernard dans son livre, c'est qu'une recherche ne tient pas, ne tient plus à la seule observation ou étude de phénomènes qui, pour ainsi dire, se donnerait d'eux-mêmes, à observer à des esprits sagaces. Ce que dit Claude Bernard, alors c'est important dans la, comment dire, dans l'espèce de logique d'analyse des mots que je vous propose, la substitution de étude à recherche, parce que si j'oublie un peu mes références livresques et que je viens à nous, je me dis étude, le mot qui va avec étude, c'est étudiant. Et le mot qui va avec recherche, c'est chercheur. Donc, revenir sur ces questions, lire, relire Claude Bernard, c'est quand même, d'une certaine manière, nous donner de quoi traiter cette question. Qu'est-ce qui ferait la différence entre un étudiant et un chercheur? Bon. En tout cas, chez Claude Bernard, il y a recherche pour autant qu'il n'y a pas étude ou que l'étude, comment dire, ne convient pas à quelque chose, pourquoi le mot recherche va convenir? Or, qu'est-ce que c'est que l'étude? Je vais vite dans la lecture du texte de Claude Bernard, mais l'étude, c'est quelque chose qui convient ou que pratiquent des esprits qui observent des phénomènes en étant quelque peu sagaces dans l'observation. C'est-à-dire, éventuellement, il y a des observateurs qui observent plus précisément que d'autres, etc. Bon. Les scientifiques, jusqu'à une certaine date, qui en gros est celle que je suis en train de, autour de laquelle je suis en train de réfléchir, produisaient des études et à partir d'un certain moment, ou des mémoires, et à partir d'un certain moment, ils ont produit des recherches. Dans la recherche, pour Claude Bernard, il s'agit désormais d'aller chercher délibérément des phénomènes, de les produire même. Donc la recherche, c'est la production de phénomènes, de les produire ou d'employer, je cite Claude Bernard, d'employer des procédés d'investigation simples ou complexes pour faire varier ou modifier, dans un but quelconque, les phénomènes naturels et les faire apparaître dans des circonstances ou dans des conditions dans lesquelles la nature ne les présentait pas. Donc la recherche se lie à l'existence, je répète, de procédés d'investigation simples ou complexes pour faire varier ou modifier dans un but quelconque les phénomènes naturels et les faire apparaître dans des circonstances ou dans des conditions dans lesquelles la nature ne les présentait pas. Fin de citation. Ce qu'au fond je propose pour définir de façon non arbitraire l'idée d'une recherche en art, c'est de reprendre ce texte de Claude Bernard que je viens de vous lire, qui est un texte princeps pour toute idée de recherche scientifique, de reprendre donc ce texte en y substituant « art », le mot « art » au mot « nature », ce qui donnera la définition suivante, « produire des procédés d'investigation simples ou complexes, pour faire varier ou modifier dans un but quelconque les phénomènes artistiques et les faire apparaître dans des circonstances ou dans des conditions dans lesquelles l'art ne les présentait pas. » Je vais commenter patiemment et progressivement, si vous voulez bien, cette proposition. D'abord, je remarque que le but est dit ici quelconque. Ce n'est pas que la recherche soit finalement sans but, c'est qu'elle n'est pas prédisposée par ce but que finalement, peut-être, sans doute, elle trouvera et qu'elle atteindra. Au commencement, il y va pour la recherche et sur ce point d'une sorte d'indécision. Ça commence dans un but quelconque, une recherche. Ça commence avec une certaine indécision quant au but. En tout cas, c'est l'idée de recherche telle qu'elle nous vient de Claude Bernard et qui est en fait l'idée historique de recherche. Au commencement, il y va d'une sorte d'indécision. Disons, si vous voulez, que ce qui décide de l'entame d'une recherche, ce qui est décisif à ce moment-là, au moment de l'entame, ça n'est pas d'avoir une idée de l'endroit où on veut aller, ni un savoir, fût-il approximatif, du bénéfice qu'il y aurait à se retrouver dans cet endroit où on voudrait aller. Le bénéfice d'une recherche, sûrement, ça n'est pas rien. Mais c'est un surcroît, et ce surcroît n'est pas une exigence primordiale de la recherche. Car ce qui importe d'abord, c'est, je répète, de produire des procédés d'investigation simples ou complexes, sans autre intention, puisque le but est par ailleurs quelconque, sans autre intention que de faire, je cite encore, je rappelle la citation, varier ou modifier les phénomènes observables par le seul fait d'une étude. Il s'agit de faire varier les phénomènes observables par le fait d'une étude, c'est-à-dire de dépasser d'une certaine mesure l'observable par étude, en faisant varier les phénomènes, j'allais dire, pour commencer d'une manière ou d'une autre. Et ça, je répète, dans un but quelconque. Puisque ces phénomènes sont, dans notre cas, des phénomènes artistiques, la question que je trouve en essayant d'appliquer le texte de Claude Bernard, c'est qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire faire varier la phénoménalité artistique? Par quoi commencerait une recherche en art? Qu'est-ce que ça veut dire faire varier les phénomènes artistiques? Pour commencer une recherche en art, pour que puisse commencer une recherche en art. Alors on pourrait ici, je crois, faire revenir l'idée que je voulais tout à l'heure discuter, et on pourrait répondre que c'est affaire précisément de création. On dirait, ben c'est ça justement la création. La création, c'est comme ça qu'on fait varier les phénomènes artistiques en art. En ce sens, ça se constaterait de fait sans s'expliquer vraiment. Parce que c'est peut-être l'un des problèmes de la création, c'est qu'elle existe, mais qu'elle ne s'explique pas sur son existence. Elle est là. Et c'est tout. Voilà. Et j'allais dire, on est prié de s'y faire, d'une certaine manière. Mais quel statut donner, si c'est ça, si c'est la création qui fait varier la phénoménalité artistique, mais qui le fait en se laissant constater, mais sans s'expliquer, quel statut donner alors au procédé d'investigation dont parle Claude Bernard au moment de lancer l'idée de recherche? Que faire des conditions, pour reprendre son texte, de la présentation phénoménale? Je ne parviens à comprendre l'ensemble du propos qu'en supposant qu'il s'agit, avec la recherche, de toucher délibérément aux conditions de parution. Qu'on soit recherche en sciences ou recherche en art, il s'agit de toucher délibérément aux conditions de parution et d'assumer ce faisant le caractère technique de ces conditions. C'est-à-dire que si vous essayez, évidemment c'est très condensé ce que je vous dis ce soir, mais si vous reprenez la petite citation de Claude Bernard que j'ai faite, que vous changez le mot nature par le mot art, etc., et que vous dites bon, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre pour définir rigoureusement, le plus rigoureusement possible, que c'est qu'une recherche en art, vous allez aboutir à l'idée qu'il y a recherche à partir du moment où on touche délibérément aux conditions de parution des œuvres. Pas on y touche de fait en créant, mais on y touche délibérément, voilà, en mettant en œuvre des procédés d'investigation pour ça. Voilà. La science, par extension les savoirs et même les savoir-faire passant à la recherche, ne s'occupe pas de ce qui paraît de soi ou de ceux dont la parution va de soi, parce qu'on s'y est habitué, parce qu'elle est déjà connue et qu'on l'a déjà pratiquée. Non seulement donc, ils font à leur tour paraître, je suis peut-être en train de... La science, par extension, les savoirs et même les savoir-faire qui passent à la recherche ne s'occupent pas de ce qui paraît de soi ou de ceux dont la parution va de soi, c'est-à-dire est déjà connue et pratiquée. Non seulement donc, ces savoirs et savoir-faire font à leur tour paraître, ils font paraître, mais ni la sorte de phénomène d'avant, ni sans doute de la même manière. Bref, ils travaillent les conditions du faire paraître. Et je serai assez prêt, au moins ce soir, pour réfléchir, de vous faire cette proposition en disant la recherche, c'est ça, ou plutôt la recherche, c'est d'abord ça. C'est un travail des conditions du faire paraître. Rapporté au champ de l'art, ça veut dire ou ça voudrait dire les savoirs et savoir-faire qui entrent dans la recherche ne se proposent pas de mettre au monde une poésie de plus, ils se proposent d'attaquer les poétiques, c'est-à-dire les attendus poétiques en général. Les conditions du faire paraître, c'est les poétiques qui, depuis l'Antiquité, les conditions du faire paraître en art. Ce sont les poétiques qui les formulent ou les définissent depuis l'Antiquité. Donc, au fond, faire de la recherche en art, ça n'est pas, je dis ça dans mon livre, faire une œuvre de plus, mais je vous propose ce soir de dire, c'est attaquer les poétiques en général, c'est-à-dire les attendus, ce qui attend la parution des œuvres. Et ce qui attend techniquement, les conditions techniques de la parution des œuvres. Voilà, ça c'est le deuxième point que je clôt là pour ce soir, parce qu'il faut que j'aille vers ma conclusion pour qu'on ait le temps de discuter, et donc j'entame le troisième. Si c'est un peu trop dense, ben vous me poserez des questions tout à l'heure. Il est troisième point donc. Il n'est sans doute pas professionnel, en tout cas il n'est pas professionnel à court terme, de travailler dans un but quelconque, et de s'attaquer aux conditions du faire paraître, fussent-elles ces conditions parées, comme je viens de dire, du nom de poétique. Les professionnels n'attendent pas qu'on attaque les règles du métier. Les professionnels n'attendent pas qu'on porte délibérément atteinte aux conditions du faire paraître quelque chose dans les règles du métier ou des métiers en général. Donc, il me semble que la recherche dont l'esprit ne peut pas être professionnel. Je sais pas, j'espère que je suis clair sur ce point. Plus trivialement, il faudrait que je parle davantage des règles professionnelles, ou plus généralement de ce qui se fait selon des règles d'efficacité admises. La recherche ne consiste pas à faire selon des règles d'efficacité admises. Si elle consistait à faire selon des règles d'efficacité admises, alors faire une œuvre de plus selon des règles poétiques, par exemple, ça serait ipso facto faire de la recherche. Je ne crois pas que ça soit le cas. Si on veut donner du sens, un sens spécifique à la notion de recherche, qui ne soit pas la même chose que, par exemple, faire ce qu'on fait quand on étudie l'art. Donc, plus généralement, il ne s'agit pas de faire ce qui correspond à un cadre avéré de validité. Ça n'est pas ça, la recherche. C'est contre ce genre de cadre, les cadres de validité avérés, que travaille pour commencer une recherche. Elle doit, la recherche, justifier un décadrage initial. Ou, si vous voulez, dans un autre langage, elle doit repérer ce qui est admis, ce qui fait thèse déjà, puisque c'est ce que veut dire le mot thèse, quelque chose qui est posé, c'est du vieux grec. Une recherche doit pour commencer repérer ce qui est admis, ce qui fait thèse déjà, elle doit repérer que cela repose sur au moins une hypothèse non interrogée. Qu'il y a quelque chose, hypothèse, ça c'est par les Grecs, et si je parle latin, je veux dire soutenir, ce qui se tient dessous, hein, soutenir. Il y a quelque chose qui soutient, qui fait hypothèse aux thèses avérées. C'est toujours ça qu'attaque la recherche, même en science. La recherche en science, depuis Claude Bernard, attaque les hypothèses scientifiques, c'est-à-dire ce qui soutient des cadres de validité et de validation de propositions, qu'elles soient discursives ou qu'elles soient matérielles. À cet égard, je note par exemple que perturber les hypothèses d'usage en vigueur dans le monde de la vidéo, c'est ce qu'ont su faire Peter Campus, par exemple, et Dan Graham entre 1972 et 1974. Alors j'avais imaginé, mais j'ai peur que ça soit trop long, mais de montrer en partageant mon écran une des installations de Peter Campus auxquelles je suis en train de faire allusion. Est-ce que je le fais? Oui? Alors j'essaye. Ah, bon, il faut que vous activiez mon partage d'écran. Mais c'est peut-être compliqué. Il faut que l'animatrice active le partage d'écran pour moi.
On va essayer d'animer. Voilà, alors. Alix, comment... Parce que moi, j'ai partagé l'écran, mais ça ne va pas. Comment je fais? Je regarde pour... Non. Partager...
Bon, ça fait rien, on va perdre du temps. Si on trouve le moyen, on le fera tout à l'heure.
Mais vous trouvez... Cliquez droite sur le visage du monsieur.
Ah oui.
Figure, et là, vous pouvez le faire.
Super, merci beaucoup. Donc, en fait, je vous nomme co-animateur. Je pense que ça ira. Est-ce que ça marche?
Je suis co-hôte, en effet, désormais. Ah oui, oui, oui. Alors,
super.
Alors, je ne sais pas si ça... Non, je me suis mal pris. Si. Est-ce que vous voyez la vidéo, là, l'image de vidéo? Vous ne la voyez pas?
Pour l'instant, nous voyons, moi je vois un écran noir, mais ça va peut-être...
Voilà, il faut que vous alliez, Pierre Damien, dans vos options d'affichage. Voilà, là, c'est bon.
Voilà. Bon, je m'en tiendrai à cet exemple. Ça, c'est une vidéo de Peter Campus. Alors, je ne l'ai pas citée dans mon livre parce que je ne l'avais encore pas vue à ce moment-là et j'ai pu la voir grâce à une rétrospective organisée par Anne-Marie Duguay. Juste après, peu après la publication du livre, qui fait qu'en fait c'est Peter Campus qui a une légère antériorité sur les vidéos que j'ai citées dans mon livre de Dan Graham. Donc je montre ça simplement. Je dis que cette installation perturbe en 1972 les hypothèses de la vidéo en général et de l'art vidéo en particulier. Tout est là. Vous avez la caméra, le projecteur, etc. Et vous avez quelqu'un qui est filmé et qui se retrouve avec une double image de lui-même devant les yeux. Cette disposition de la vidéo ne peut pas ne pas attaquer les hypothèses, je parle très précisément les mots que je vais dire, les hypothèses de la télévision. Et certainement, on peut commenter cette œuvre de Peter Campus autrement, dans un esprit, comment dire, qui consisterait davantage à remarquer que Peter Campus, tout au long de son œuvre, se sera intéressé au dédoublement de personnalité. Donc, on peut faire un commentaire disons, expressif sur cette vidéo. Mais si je l'adopte au nom de la recherche, ce n'est pas pour cette raison thématique, disons. C'est pour une raison technique, c'est que Emila en place une disposition de la vidéo qui perturbe, qui aura perturbé en son temps les hypothèses de la vidéo. C'est donc en ce sens de la recherche. Alors maintenant, il faut que je revienne, voilà, ça y est, que je revienne avec vous. Donc je pense que ce genre de travail implique la réalisation, comme on dit réaliser, tu te rends compte, se rendre compte. Ce genre de vidéo implique la réalisation d'un désaccord concernant une hypothèse théorique concernant à la fois l'art et la vidéo à l'époque. Je dis réalisation ici en un double sens, celui qui veut par réaliser dire faire quelque chose, chosifier d'une certaine manière, hein, vous avez le vieux mot latin res que vous entendez dans réaliser, hein, c'est faire quelque chose, la réaliser, comme on dit réalisateur au cinéma. Hein. Donc c'est ça, c'est de la recherche en art, parce que ça réalise quelque chose et en même temps cette réalisation permet de réaliser au deuxième sens, d'un se rendre compte d'une hypothèse qu'elle critique des conditions habituelles du télévisuel en général. J'entends modification d'une hypothèse théorique, c'est ce qui se passe ici, hein, il y a la modification d'une hypothèse et cette hypothèse est une hypothèse théorique. J'entends par théorie, je vais développer dans une seconde, toute façon de cadrer une scène et, puisque je m'adresse à des littéraires, de définir un volume. Est-ce que vous permettez que j'insiste un tout petit peu sur ce point ? Donc, autrement dit, je pense que la recherche, c'est de toute façon, en art ou ailleurs, l'attaque d'une hypothèse théorique. Mais il faut qu'on s'entende, pour revenir ensuite à notre champ, l'art, sur ce que théorie veut dire plus précisément. Théorie est un mot qui archaïquement a à voir avec la possibilité de poser un regard. C'est ce que veut dire le mot dans le vieux grec. Ça a à voir avec la possibilité de poser un regard ou, je dirais, d'organiser un champ de visibilité. Un théâtre au sens le plus habituel du mot, c'est un lieu théorique. D'ailleurs, la théoria, dans la vieille langue grecque, ça pouvait désigner, comment dire aujourd'hui, la queue, les gens qui font la queue pour entrer au théâtre. Il y avait un lien entre le théorique et le théâtral. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est quelque chose qui a parcouru une longue histoire. Donc, la théorie, ça a à voir avec la possibilité d'organiser un champ de visibilité, un théâtre par exemple, un théâtre au sens habituel du mot, mais aussi, si vous voulez, un théâtre d'opération. Organiser un théâtre d'opération, c'est faire une théorie. Même si il n'est pas prononcé de mots, c'est ça que je voudrais souligner à votre intention ce soir. Il n'y a pas besoin de parler pour faire de la théorie. On n'y pense pas assez, et ça crée, qu'on n'y pense pas assez, beaucoup de malentendus sur ces mots qui ont tellement occupé notre champ, théorie et pratique. Il n'y a pas forcément besoin d'être discursif pour être théorique. Ce que je voudrais établir, et j'en aurai bientôt fini une fois que j'aurai fait ça. Donc, un théâtre d'opération, organiser un théâtre d'opération, c'est une opération théorique. Quand Galilée, au XVIIe siècle, dans son dialogue des sciences nouvelles, expose les principes de la science moderne du mouvement, il trouve utile de préciser au début de son ouvrage la position du porte-parole de cette science. Et la position du porte-parole de cette science, c'est qu'il porte un regard sur les pratiques des meilleurs ouvriers des arsenaux vénitiens. Il regarde ce qui se passe dans les arsenaux de l'extérieur. il y a une scène de visibilité, une scène théorique qui est organisée, et Galilée la constitue avant de commencer le raisonnement proprement dit de la science qui va devenir la science moderne du mouvement. Ce regard-là, cette scène de visibilité, n'est pas seulement situé, il est situé au sens où, en tout cas, ça n'est pas le regard des praticiens dans l'atelier même, c'est le regard d'un homme qui se trouve à l'extérieur, en mesure de discuter avec d'autres regardeurs qui sont comme lui des regardeurs. Ce regard donc n'est pas seulement situé par Galilée, il est aussi un regard préalable. Je veux dire que cette position qui constitue la scène théorique, qui constitue la scène de visibilité, cette position, elle anticipe le discours. Elle anticipe le discours même de Galilée, en l'occurrence. Et en fait, je propose de généraliser et de dire qu'il y a toujours une position théorique qui anticipe quelque discours que ce soit. Il y a toujours une position théorique qui anticipe quelque discours que ce soit, c'est-à-dire il y a toujours l'organisation d'une scène théorique ou d'une scène de visibilité qui anticipe quelque discours ou opération que ce soit. Ce qui anticipe ainsi le discours, c'est l'entame proprement hypothétique. Hypo, ça veut dire en dessous. Ce qui est en dessous de la thèse, ou par traduction aussi, je dirais, ce qui vient avant. C'est ce qui se situe en position hypothétique de thèse qui vont pouvoir ensuite être dites. Cette scène de visibilité qui s'organise avant toute thèse, mais qui en même temps permet à une thèse d'avoir lieu, c'est ce qui prépose le champ des propositions qui vont venir. C'est une sorte de préposition. Il y a des prépositions théoriques qui anticipent toute thèse possible. Alors je suggère, par extension, en somme, de dire la même chose de la caméra qui règle et pose, que règle et pose le photographe ou le cinéaste. Le réglage et la pose d'une caméra sont une opération théorique et relèvent des hypothèses, il y en a d'autres d'ailleurs, mais celle-là en est au moins une, relèvent des hypothèses de la photographie et du cinéma. Le réglage et la pose d'une caméra est toujours une hypothèse théorique pour la photographie et le cinéma. Ils vont permettre, ce réglage et cette pose, de thématiser un certain nombre d'éléments, ceux qui, justement, viendront prendre place sur la scène ou dans le cadre désormais posé, réglé, constitué. Mais ils ne sont pas ces réglages préalables, cette pose préalable, ils ne sont pas thèmes eux-mêmes de la scène ou du cadre. Ils sont, on dirait en philosophie, le transcendantal, qu'il ne faut pas confondre avec le transcendant. Ce n'est pas la même chose, le transcendantal en philosophie et le transcendant. Ils sont le transcendantal, ou si vous voulez, la condition de possibilité de la scène, de la thématisation. Il y a toujours des conditions de possibilité à quelques thématisations que ce soit, qui sont comme des poses de caméra ou des réglages de caméra, et qui sont par conséquent des opérations théoriques préalables. C'est bien à quoi ce transcendantal, ces conditions de possibilité, ces hypothèses, c'est bien à quoi se consacre la recherche depuis que Claude Bernard en a fait la proposition. La recherche ne s'intéresse pas tant qu'on croit, à produire des thèses, qu'à attaquer des hypothèses, qu'à déplacer des hypothèses, qu'à constituer en déplaçant des scènes de visibilité, des hypothèses théoriques. Il s'agit moins de faire venir d'autres possibles dans un champ de savoir donné, tâche qui pourrait en art correspondre à ce qu'on veut dire par création, que de modifier ou de déplacer la condition même de possibilité. Alors c'est dans le même esprit que j'ai parlé tout à l'heure de volume. Cette notion, je l'associe à celle de livre, laquelle est une hypothèse théorique de la littérature au sens que je viens d'essayer de dire. C'en est même une hypothèse, le livre comme volume ou le volume du livre, une hypothèse archithéorique, pour autant que ce dernier qualificatif permette de plus particulièrement remarquer l'existence dans l'affaire d'une double propriété, celle de n'être pas discursif d'une part, celle de participer de et à une opération sans s'y exposer, sinon comme trace. C'est ainsi que le livre, c'est-à-dire une façon de faire volume de texte, peut conditionner l'écriture et où se trouver à l'état de trace au moindre commencement d'une écriture. C'est-à-dire que si j'écris, c'est en ayant comme hypothèse pour l'écriture une certaine façon de faire volume de mes textes qui s'appelle un livre. Mais peut-être le livre, cette hypothèse de la littérature, peut-il ou doit-il, dans une recherche en lettres, pas une recherche sur les lettres, pas une recherche sur la littérature, mais une recherche en littérature, eh bien, faudrait-il justement déplacer l'hypothèse théorique du livre, et autrement dit, écrire, j'allais dire, de façon un peu provocante, pour ne pas faire livre, hein, avec un autre cadrage que le livre en perspective. Un chercheur travaillant non pas sur la littérature, c'est un autre sujet, mais en lettres, pourrait commencer avec ces questions à l'esprit. Puis-je écrire sans faire volume de mes textes? Y a-t-il pour moi une écriture qui ne soit pas d'avance tracée par les formes éprouvées du livre et dont je pourrais établir pour d'autres que moi la pertinence? Bien sûr, cette façon de dire, ma façon de dire, pourra sembler peut-être schématique. Peut-être faut-il la considérer plutôt comme introductive. Car dès que je me pose les questions que je viens de dire, d'autres me viennent qui exigent substantiellement que je vérifie la pertinence de ma propre entreprise. De même que Claude Bernard ne s'est pas contenté de manifester des phénomènes dans un cadre inédit d'hypothèses, mais qu'il a aussi exposé, ce faisant, à leurs propres hypothèses, les phénomènes dont les conditions de manifestation étaient déjà connues. De même, les opérateurs en art ou en littérature, l'artiste ou l'écrivain, ne peuvent faire recherche que s'ils se trouvent établis que le cadrage, qui est, on va se dire, la théorie pratique de ce qu'ils font ou proposent de faire, excède en quelque chose les cadrages connus. Il faut montrer que ce qu'on se propose de faire excède les cadrages connus. Tôt ou tard, pour que la recherche fasse thèse au sens institutionnel du mot, il faut que la démonstration de cet excès sur les cadrages théoriques antérieurs ait lieu. En ce sens, est exemplaire, m'a semblé exemplaire, le travail de Gropius auquel je me suis référé dans mon livre. Ce travail aurait pu faire thèse de recherche en art, au sens où il contenait un projet constructible de théâtre, dont la différence avec les modèles existants dans le même champ est établie dans un court mais suffisant texte. C'est une recherche, ce projet de Gropius, parce que c'était un théâtre constructible en architecture qui montrait dans son plan même et dans le court texte qui l'accompagnait que c'était un théâtre qui se décalait des modèles, des hypothèses de théâtre historiquement avérées jusqu'à présent. Donc en ce sens, c'était une recherche, c'était bien une recherche en architecture. Bon, j'ai terminé à peu près, j'ai juste un dernier mot de conclusion, si vous voulez bien. Sûrement j'ai été trop dense, mais bon, maintenant c'est trop tard pour le regretter, c'est comme ça. Avec cet ensemble de propositions, je n'ai traité ce soir que de la recherche en art, laissant de côté de fait les autres modes dont j'ai aussi indiqué, je crois, l'existence dans mon livre, recherche sur l'art et recherche avec l'art. Il nous reste un peu de temps, si vous voulez, pour discuter de ces recherches-là, au moins un peu, si vous le souhaitez. Mais il est encore une question qui pourrait aussi nourrir notre discussion et que je vais tâcher de formuler rapidement en conclusion, cette question concerne un double titre, l'expérience, dont vous souhaitiez que je parle un petit peu, la notion d'expérience. Il faudrait en effet, d'une part, préciser là où les sortes d'expériences dont une entreprise comme la recherche peut être tributaire. Je veux dire par là, expérience, ça implique l'idée d'une traversée. Et ex, c'est sortir. C'est-à-dire, avoir une expérience, c'est avoir être sorti d'une traversée, par hypothèse, de tout un temps. Alors, quelle expérience, de quoi faut-il être sorti? Quelle expérience faut-il avoir pour entamer une recherche? Pour commencer une autre expérience, une autre traversée qui serait celle ou qui sera celle d'une recherche? Je pense qu'il faudrait parler de ça, bien entendu, hein, qui serait donc une chose concernant la discussion éventuelle sur la notion de recherche. Mais il y aurait aussi une autre chose qui serait de se demander quelle sorte d'expérience peut bien être la recherche elle-même. Qu'est-ce que c'est la recherche en tant qu'expérience? Par cette expérience-là, je ne veux pas dire expérimentation. Je voudrais qu'on réapprenne à distinguer entre ces deux mots, expérience et expérimentation, qui ne disent pas la même chose et qui n'ont pas la même histoire dans la langue. Pour reprendre votre belle expression de tout à l'heure, Marie, ça ne nous parle pas de la même manière, au sens, ça nous dit quelque chose, mais nous ne sommes pas parlés par ces mots de la même manière. Non, l'expérience de la recherche en tant qu'expérience, ça n'est pas une expérimentation, il s'agit plutôt, comme je l'ai écrit ou tenté de l'écrire dans mon livre, d'un certain temps de vie, ou ailleurs, j'écris ça peut-être aussi ailleurs, il s'agit d'un certain temps de vie, d'une traversée qu'il faut endurer. Si la recherche est une certaine expérience, un certain temps d'expérience, alors littéralement, ça veut dire qu'il faut endurer ça. Par endurer, je veux dire, il y a de la durée. Ça dure. Une expérience, ça dure toujours. Donc, il s'agit d'un certain temps de vie, d'une traversée qu'il faut endurer, ou dont il faut, en d'autres termes, si vous voulez, trouver le temps. Trouver le temps. Il faut trouver le temps de la recherche pour avoir l'expérience de la recherche. La question à laquelle, par conséquent, je ne fais pour le moment qu'introduire, se divise en fait. Il s'agit de savoir quelle sorte de traversée de temps la recherche est. Mais encore, il s'agit de savoir si cette traversée implique le déplacement d'une culture, si en ce sens elle n'est pas naïve, ce que tente à suggérer tout mon propos, mais qu'il faudrait sans doute davantage expliciter, si ça n'est pas ça, le temps de traversée de la recherche, de quelle autre ou de quelles autres traversées est-elle une suite possible? De quelle autre traversée, la traversée de la recherche, est-elle une autre suite possible? De quelles expériences de vie, l'expérience de la recherche est-elle une suite possible? Ma réponse tient d'abord à l'idée que j'ai essayé de présenter dans la conférence « Apprendre, étudier, chercher » dont vous pouvez trouver le texte sur mon site, selon laquelle il y va d'un parcours scandé par la succession d'attitudes, de relations et d'opérations que ces trois verbes « apprendre, étudier, chercher » désignent. Pour entrer dans l'expérience de la recherche, il me semble qu'il faut avoir fait l'expérience de l'apprendre, l'expérience de l'étudier, et donc, à partir de là, on peut entrer dans l'expérience du chercher. Elle tient ensuite, ma réponse, aux propos que j'ai davantage, lui, développé dans mon livre, le propos qui dit en substance qu'être dans la recherche, c'est être bien davantage dans l'incertitude que dans l'expression. Je pense qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui, dans son temps de recherche, fait l'expérience d'une incertitude, qui, après avoir fait l'expérience de l'apprendre et de l'étudier, qui ne sont pas des expériences de l'incertitude, entrent, et là il devient chercheur, ou commence à devenir chercheur, dans l'expérience d'une incertitude, incertitude liée au fait qu'il s'agit de bouleverser des hypothèses, des cadres de pensée ou de théorie ou de pratique qui sont déjà admis. Être dans la recherche, c'est être bien davantage dans l'incertitude que dans l'expression, situation que les artistes peuvent peut-être avoir particulièrement de la difficulté à endurer. En tout cas, les artistes peut-être, aujourd'hui, surtout si leur rapport à la création les a déjà personnellement engagés à travailler dans une hypothèse artistique. Si j'ai été, par mon travail d'artiste, personnellement, en tant que personne, engagé dans une hypothèse artistique, faire de la recherche en art, ça voudra dire déplacer ma propre personne sur mes propres hypothèses personnelles. Ça, c'est une expérience de l'incertitude absolument à la fois bouleversante, je crois, quand elle a lieu, et redoutable, on peut dire, dans un certain sens. Alors, forcément, inévitablement, plutôt, dans la recherche en art, c'est l'engagement personnel et par extension la personne même qui s'était engagée dans une hypothèse artistique. C'est l'engagement personnel et c'est la personne même qui s'était engagée dans une hypothèse artistique que la recherche vient, pour ainsi dire, travailler et déranger personnellement. C'est pourquoi je pense que dans ce champ-là, plus peut-être encore que dans tout autre, il faut à la recherche son temps et sans doute beaucoup plus de temps qu'il n'en faut dans une recherche scientifique, parce que l'incertitude dans la recherche scientifique, elle ne touche pas la personne comme peut toucher la personne une recherche en art. En gros, ce que j'avais préparé, je l'ai dit. Donc maintenant, je discute autant que vous voulez, je ne suis pas pressé pour ce qui nous concerne.
Je vous remercie, mais je sais que je vous remercie au nom de tous ceux qui vous ont écouté, puisque nous ne pouvons pas vous applaudir. Enfin, nous pourrions, mais ça créerait des brouillages énormes. Donc, nous faisons comme si. Merci vraiment infiniment. Je crois que la densité n'est pas du tout un handicap. Je pense que ça va bouillonner en chacun de nous longtemps après vous avoir écouté.
De toute façon, je mettrai le texte sur mon site.
D'accord, parfait. J'ai été, en tant que littéraire, aussi, je dirais, non pas surprise, parce que vous l'évoquez dans votre livre, mais d'entendre le nom de Claude Bernard, parce qu'on sait à quel point aussi pour Zola, toutes les réflexions à cette époque-là ont été essentielles et comment le questionnement de l'expérience, notamment, a été fondamentale pour la littérature. Je propose que nous passions donc bien sûr à la discussion selon plusieurs modalités possibles. Soit vous pouvez les unes et les autres écrire des remarques ou des questions dans le chat si c'est très court, et Alix peut se faire le relais auprès de Pierre-Damien Huyck de vos questions. Soit alors, c'est peut-être plus confortable, surtout si les questions sont un petit peu plus développées ou les remarques, vous pouvez dans le chat demander à prendre la parole et à ce moment-là brancher votre micro, voilà, de façon à ce que tout le monde ne le fasse pas en même temps simplement. Et bien sûr, Alix et moi avons en réserve tout un tas de questions que nous pourrons éventuellement poser si vous n'osez pas commencer. Voilà. Donc, je laisse la parole peut-être à ceux qui souhaitent la prendre. Même si après, évidemment, une telle densité, c'est très difficile de tirer un fil et de le choisir. Valérie, oui, vas-y. Je vois que tu ne peux pas mettre ton micro. Alors, attends, je te le... Hop. Voilà. Est-ce que tu as branché ton son, Valérie? Parce que là, sur mon écran, tu es branchée en micro. parce que là, c'est ton propre système, parce que sur le sur Zoom, tu es bien marqué avec micro branché. Bon. J'en profite peut-être pour commencer avec une première question. Je les ai préparées, mais je ne les regarde pas. Dans le chapitre que vous consacrez dans le livre à la thèse en art, vous dites des choses à la fois très justes et je dirais aussi très belles sur le rapport entre les pratiques, et non pas l'opposition sur laquelle vous êtes brièvement revenu, théorie pratique, mais des pratiques, la pratique artistique et la pratique d'écriture, en disant approximativement ceci, que le geste d'écriture permet une suspension du geste artistique, l'écriture n'étant pas la même pour un sujet artiste qui suspend son geste que pour un sujet du savoir. La question que je me pose, c'est quelle serait la portée du geste d'écriture qui pourrait être du côté d'une forme de réflexivité ou de sur le geste artistique lui-même, c'est-à-dire quand on revient au geste artistique. Cette question, elle est d'autant plus prégnante peut-être pour moi, ou elle se pose de façon peut-être plus aiguë, puisque quand il s'agit de littérature, les deux pratiques sont redevables de la même matière, c'est-à-dire de la langue. Il n'y a pas d'un côté, je suis caricatural, j'ai une création chorégraphique ou plastique, et puis j'ai de l'écriture qui va accompagner ou converser avec ce geste-là, mais les deux sont de l'écriture. Donc voilà, je ne sais pas si ma question est clairement formulée, mais c'est pour ce double aspect de la question de la thèse ou des travaux de recherche en art.
Alors, je crois qu'il faut que je réponde à cette question à deux niveaux. Disons un niveau général, c'est que je crois que j'essaye en effet de dire ça quelque part dans le livre. Écrire, c'est une pratique. J'allais dire au moins autant qu'on dit qu'il y a une pratique artistique. C'est-à-dire que de toute façon, écrire, c'est associer des paragraphes les uns aux autres, c'est réassocier, c'est enlever des phrases, c'est en remettre d'autres. Enfin, c'est pas. En fait, je conteste beaucoup la distinction théorie-pratique. Ce soir, je l'ai contesté du côté théorie. Dans le livre, je conteste peut-être davantage du côté pratique. Donc, disons que l'écriture, qui est souvent associée, ceux qui écrivent seraient, comme on dit, comme j'ai souvent entendu dire les théoriciens, non, ceux qui écrivent sont des gens qui pratiquent l'écriture. Ils sont des praticiens de l'écriture. Ce ne sont pas des praticiens en tant qu'ils écrivent de la peinture ou de la vidéo, ou etc. Mais ce sont des praticiens de l'écriture. Et au fond, tout simplement, on ne peut pas faire les deux choses en même temps, les deux pratiques en même temps. On ne peut pas, dans le temps même où on pratiquerait l'écriture, on ne peut pas pratiquer la vidéo ou inversement. Si je fais un film, je ne suis pas en train, je suis pas en train d'écrire. Ce sont des choses qui sont pas, qui relèvent pas de la même, du même moment, ni d'ailleurs de la même durée. C'est pas les mêmes durées de travail. Enfin, tout ça, c'est très très différent. Et donc, je crois tout simplement pas qu'on puisse vraiment faire les deux choses en même temps. Si empiriquement, bien entendu, je peux filmer dans la journée et prendre quelques notes chez moi le soir, pourquoi pas, bien entendu. Mais c'est pas de ça qu'on nous sommes en train de parler. Hein. On parle d'un travail d'écriture et d'un travail de filmage qui sont pas du même temps, qui peuvent pas, à mon avis, être du même temps. Donc ça, c'est une chose pour vous répondre, pour essayer de vous répondre. Et alors, la deuxième, c'est que lorsque j'évoque ce que vous venez de rappeler, la suspension du geste artistique dans le livre, il me semble que c'est parce que je suis en train de traiter de ce dont je n'ai pas parlé ce soir, à savoir, non pas la recherche en art, mais la recherche avec l'art. et que j'essaye de définir les conditions qui pourraient être celles-ci, celles de quelqu'un dont la recherche ne consiste pas, comment dire, à déplacer une hypothèse artistique, comme j'ai essayé de dire ce soir, mais consiste à déplacer une hypothèse sur l'art. Consiste à déplacer des hypothèses qui ont cours sur l'art, qui par exemple peuvent venir de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art fait plein d'hypothèses sur l'art, ou de la philosophie de l'art qui fait plein d'hypothèses sur l'art, qui sont parfaitement insuffisantes. Voilà. Que les choses soient claires. Mais ce qui pourrait caractériser la recherche, comme je dis dans le livre, avec l'art comme expérience, c'est-à-dire la recherche entreprise par quelqu'un qui a par ailleurs, en tant que personne, une expérience de l'art, ou comme je viens de dire dans ma conclusion, qui a, en tant que personne, engagé quelque chose justement de sa personne dans le fait de faire quelque chose en art, et qui, avec cette expérience-là, entreprend d'écrire quelque chose qui visera à déplacer des hypothèses sur l'art grâce à l'expérience de l'art. Voilà. Alors, je pense que cette personne ne peut pas poursuivre, pendant qu'elle fait ce travail-là, au fond, pour simplifier, je vais dire les choses comme ça, je ne pense pas que cette personne, pendant le temps qu'elle fait ce travail-là, puisse continuer son engagement dans l'art comme elle le faisait. Et elle doit savoir, et d'ailleurs peut-être que tout chercheur doit savoir, qu'il soit en art ou avec l'art, qu'à partir du moment où s'engage là un temps d'incertitude, eh bien ça ne laisse pas la personne indemne. C'est pas malheureux qu'on ait une expérience de plus, ça peut être une expérience évidemment heureuse, mais simplement on ne se retrouvera pas au bout de l'expérience de la recherche, dans le même état d'esprit qu'on était avant. On ne peut pas se conserver avec ses hypothèses d'avant. Voilà. Et je pense que c'est ça que je voulais dire pour répondre à votre question. Voilà. Il y va d'une expérience humaine, et donc il ne s'agit pas... En fait, si vous voulez, j'aurais eu un différent avec quelque chose que j'essaye de définir au sens précis du terme, de mettre des limites à ça. Finesse en latin, c'est la frontière, la limite, qui est la poétique. Ce qu'on a appelé, ou ce que certains de mes collègues ont appelé la poétique. Donc je pense qu'on a fait l'expérience historique, ça, il y a une bonne trentaine d'années, et que dans une certaine mesure, on a vu les limites. Je pense qu'une des hypothèses de la poétique, qui n'est pas forcément la poétique de Valéry, mais qui est la poétique telle qu'on l'aura pratiquée, que je l'ai vue pratiquer, c'est qu'on peut à la fois faire son œuvre et écrire sur elle. Je ne crois pas que ça soit... c'est possible, bien entendu que c'est possible, mais ça ne fait pas recherche. Ça ne fait pas recherche pour les raisons que j'ai essayé de dire ce soir, c'est-à-dire que ça n'implique pas les déplacements des hypothèses dans lesquelles la personne s'est engagée, je dirais même au contraire. Ça permet peut-être d'expliciter ces hypothèses, mais pas de les déplacer.
Je prends la parole pour traduire une question de Valérie Arrault et puis après il y aurait une question de Vincent Desville. Alors la question de Valérie serait de revenir en fait sur ce syntagme imposé de la recherche-création. Quel lien faire entre cette imposition ministérielle et un changement de statut, c'est-à-dire comment... ce syntagme est arrivé au cours de cette période historique que nous traversons et en quoi elle peut justement faire en sorte de séparer certaines formes de recherche.
Oui, je suis allé très vite à ce moment-là et je pense qu'il n'y a pas qu'à ce moment-là d'ailleurs que je suis allé vite. Alors, je vais préciser... Ce qui me semble sûr, c'est que le mot recherche a été imposé. Hein, je dis dans le livre, c'est un signifiant baladeur qu'il fallait absolument, qui nous a baladés, mais on ne pouvait pas ne pas le placer. Bon, là, l'injonction est très claire. Pour recherche-création, peut-être mon propos de ce soir n'était pas assez nuancé dans l'expression, mais en tout cas, ma pensée l'est davantage. C'est-à-dire que je pense que recherche-création n'est pas un syntagme, une expression qui nous est imposée dans les mêmes conditions et de la même manière que le mot recherche aura été imposé à toute l'institution universitaire et bien au-delà de l'institution universitaire, en l'occurrence aux écoles d'art. Parce que recherche-création, c'est peut-être quelque chose qui résulte d'une sorte de négociation avec l'injonction à faire de la recherche, hein, qui résulte justement de tout ce qui s'est passé depuis, on va dire, 2006, 2007, 2008, enfin, quand tout ça commence à mijoter vraiment. Et donc les institutions qui ont cherché donc à mettre du leur dans le mot lui-même. Donc c'est pas la même chose recherche-création. Il y a quand même quelque chose qui vient de nous là-dedans. C'est pas simplement de l'ordre d'une obédience. D'une part. Et alors, d'autre part, si j'ai dit rapidement. J'ai parlé rapidement des statuts, c'est parce que je voudrais quand même mettre en garde, autant que je peux, sur le fait que est-ce que c'est forcément adroit, est-ce que c'est inévitablement adroit de revendiquer la recherche-création dans un monde qui n'entend pas le mot recherche tout à fait de la même façon, en tout cas qui n'entend pas avec le mot création à coller, qui n'entend pas la recherche comme création, hein, mais qui est le monde qui a la puissance institutionnelle avec lui. Voilà. C'est-à-dire si on est des chercheurs, pas comme tous les chercheurs, si on dit autrement dit, il y a chercheurs et chercheurs. D'une certaine manière, on prend le risque, il me semble, d'ouvrir la voie à ce qui est statut et statut dans la matière. Voilà. Et je pense qu'il faut quand même faire attention. Je pense en particulier, quand je dis ça, à ce qui peut arriver depuis les écoles d'art, voilà, où on ferait de la recherche-création sans que personne n'ait le statut de chercheur dans l'affaire. Voilà. Il faut quand même faire attention à ça. Peut-être que si on dit seulement chercheur, ou si on dit recherche en art, comme on dit recherche en biologie, etc., on se rend proche de structures dans lesquelles, pour le moment en tout cas, il y a des statuts. Je vois ton geste, mais je n'entends pas ce que tu dis.
Alors, Vincent Desvilles avait une question sur recherche et critique. Vincent, est-ce que tu arrives à brancher ton micro?
J'essaye, je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui. Très bien.
J'ai cru comprendre à travers votre propos qu'il y avait une affinité entre recherche et pensée critique, mais ce n'est pas un terme que vous avez employé typiquement. J'aurais voulu que vous développiez un peu si c'était pertinent. Parce qu'en tout cas, les deux exemples que vous avez pris de Peter Campus ou de Walter Gropius, vous avez dit que ce qu'ils proposaient à travers leur recherche, donc une recherche en art, c'était des propositions qui se décalaient des modèles avérés. Donc, se décaler des modèles avérés, ça veut dire les critiquer, les contester. Vous développiez un peu sur cette dimension critique, peut-être, de la recherche. Est-ce que c'est ce qui la caractérise pour vous avant tout? Est-ce que c'est ce qui distingue aussi la recherche d'une simple étude, enfin simple entre guillemets, simple étude? Est-ce qu'une étude ne peut pas être critique aussi? Là, enfin, ça me fait poser ces questions-là.
Alors, Je ne sais pas exactement ce que j'ai dit ce soir. Je fais quand même, dans les circonstances comme celle-ci où je travaille quand même, je fais attention, j'espère, à ce que je dis. Mais bon, alors est-ce que j'ai beaucoup utilisé le mot critique ce soir? Je ne pense pas. On est d'accord? Ah oui, d'accord. Bon, j'ai mal entendu.
On va l'entendre de manière sous-jacente.
Oui, d'accord. Okay. Et je ne pense pas non plus, alors j'ai mieux entendu, je crois, ce que vous dites, mais je relèverai, si vous voulez, dans ce que vous dites, la chaîne que vous établissez entre décaler, critiquer, contester. Alors, il faut que je fasse une précision, c'est que lorsque le scientifique repère une hypothèse de la science avérée, repère comme telle une hypothèse de la science avérée et que, donc il fait remarquer le caractère seulement hypothétique de la science avérée, qui elle-même ne sait pas son caractère hypothétique. Voilà. Quand il fait ce travail-là, le scientifique, il décale le champ scientifique, il autorise de nouvelles hypothèses, il ne conteste pas nécessairement pour autant la validité des thèses antérieures. C'est-à-dire qu'elles restent valables sous la condition de leur hypothèse. Alors, je vais prendre un exemple. En mathématiques, ça ne va pas être trop compliqué. Mais au XIXe siècle, sont apparues des géométries non euclidiennes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, dans le postulat de la géométrie euclidienne sur les parallèles, la définition du parallèle, de la parallèle, une hypothèse intuitive qu'on pouvait déplacer et décaler. Voilà. Qui est, par un point pris hors d'une droite, il ne peut exister qu'une seule parallèle à cette droite. C'est vrai sous la condition d'une certaine représentation de l'espace qui est, pour aller vite, l'espace plat. Voilà. Donc, si vous pensez l'espace non pas comme quelque chose de plat, mais comme une sphère, ça ne tient pas. Et donc, ça a donné lieu aux géométries non euclidiennes, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'en faisant une autre hypothèse, un autre postulat, on pouvait développer une géométrie non contradictoire, pas plus contradictoire que la géométrie euclidienne. Mais ça n'a pas invalidé la géométrie euclidienne pour autant. Ça l'a relativisée, ça a relativisé sa vérité sous la condition des hypothèses. C'est la même chose quand on passe à la physique relativiste, ça n'invalide pas la mécanique de Galilée, ça relativise son champ de validité. Donc, je pense qu'on peut déplacer ce genre de choses à d'autres champs comme le nôtre et dire que repérer une hypothèse artistique, ça n'est pas invalider les œuvres qui se sont faites. Repérer le caractère hypothétique d'une pratique artistique, le fait qu'elle est valable sous hypothèse, ça n'invalide pas cette pratique pour autant. Ça déplace la possibilité de faire art ou de penser le faire art. Alors, est-ce que je vous réponds à peu près clairement? Oui. Bon. Ensuite, sur études. Alors là, si vous permettez, je crois que la conférence est encore accessible via Internet. Si vous passez par mon site, vous trouverez les liens. Et puis, j'ai mis le texte « Apprendre, étudier, chercher ». Je l'ai mis sur mon site, vous pouvez y avoir accès pour une argumentation un peu plus développée que ce que je vais dire maintenant. Alors bien sûr, on peut peut-être entendre les mots autrement que je me fais, mais je dirais que dans l'apprentissage, ça s'adresse à des élèves, l'étude à des étudiants, la recherche à des chercheurs. Mais lorsqu'un élève apprend, il apprend comme vrai, de la part d'un enseignant, c'est-à-dire de quelqu'un qui lui transmet des signes du savoir, il apprend comme vrai une réponse. Par exemple, il apprend en physique, au lycée, plutôt la physique galiléenne que la physique relativiste, a fortiori quantique. Il apprend plutôt la géométrie euclidienne et il ne sait pas qu'il y a d'autres géométries, celui qui apprend. Donc, quand on apprend une réponse qui a été validée à une sorte de question. Voilà. Et l'apprentissage se clôt par un examen. L'examen, c'est le moment où on s'assure que celui ou celle qui a appris, en effet, a bien appris, c'est-à-dire peut restituer ce qu'on lui a transmis. Donc, en gros, ça veut dire il ou elle répond bien, comme il faut, comme il convient, à la question qu'on lui adresse au moment de l'examen. L'étude, c'est un peu différent. Il me semble que l'étude, enfin moi je propose de définir l'étude comme étant le fait de se rendre compte que pour une question donnée, il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas qu'une seule réponse, que les humains sont capables d'une pluralité de réponses valides à une seule question. Autrement dit, il faut faire le tour des réponses. Il y a un petit côté encyclopédique. Et il faut accepter sur le plan intellectuel que les réponses sont toujours relatives. Il faut commencer à accepter sur le plan intellectuel que les réponses sont relatives. Il me semble que l'expérience de l'étude, c'est l'expérience, c'est le début de l'expérience de la relativité des savoirs, quels qu'ils soient. Par exemple, que suivant les moments de l'histoire, on n'a pas fait et on n'a pas dit les mêmes choses. L'étudiant, il va apprendre ou elle va apprendre la profondeur historique du savoir dans sa discipline, ce qui n'est pas nécessaire à l'apprenant, comme on dit hélas aujourd'hui, c'est-à-dire à l'élève tout simplement. Et avec la recherche, il se passe autre chose. Donc je propose ça, après dans le langage courant, on part comme on peut, mais disons, quand on réfléchit, il me semble qu'on peut faire ces distinctions notionnelles ou conceptuelles et donc se dire ce qu'il y a à faire quand on étudie, ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a à faire quand on cherche. On ne demande pas à l'étudiant d'apprendre lui-même ou elle-même à déplacer les hypothèses. Au chercheur, oui. Il me semble.
Merci. Il n'y avait pas d'autres questions apparemment sur le chat, mais si quelqu'un a une question brûlante, il ne faut surtout pas hésiter de la poser. En attendant, le temps que la question brûle, moi j'avais envie que vous reveniez un petit peu sur un passage du livre où vous critiquez quand même de façon assez péremptoire, si je puis me permettre, la notion de poétique selon René Passeron. Voilà. Et à la fin du livre, vous privilégieriez plutôt un retour vers le poème. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi cette critique de Passeron et ce qu'on devrait lui substituer?
Alors, je commence par le plus facile pour moi, c'est la fin. Ce que je suggère qu'on fasse plus tôt, c'est dès lors que qu'on vise, parce qu'il y a la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être diplômé chercheur, et aussi par conséquent. Qu'est-ce qui fonde le travail d'un jury qui atteste, oui, celui-là ou celle-là, il ou elle a fait assez de travail pour qu'on puisse dire, désormais, c'est un esprit chercheur. C'est quelqu'un dont l'esprit est capable de faire de la recherche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Alors, sur le plan idéal, on est bien d'accord, la vraie vie, ce n'est pas idéal. On est bien d'accord aussi là-dessus. Mais sur le plan idéal, je pense qu'on peut dire une recherche en art, ce qu'il faut faire, c'est quelque chose. Donc faire quelque chose, c'est le poiein, hein, le fabriquer, le vieux verbe grec. Il faut faire quelque chose qui, dans sa nature de chose, contient. Un déplacement d'hypothèse. C'est pour ça que je projetais tout à l'heure un peu trop rapidement l'image de la vidéo de Peter Campus, qui, à mon avis, suffit. Je veux dire, si on voit ça, alors ce n'est pas vrai de toutes les œuvres de Peter Campus, il y a des œuvres de Peter Campus qui ne font pas, qui ne donnent pas cette idée que je vais dire, mais celle-là, il me semble que c'est le cas, dire, par le fait, je vois bien en passant par là que c'est quelque chose qui perturbe des hypothèses. Voilà, ça suffit, dans l'idéal. Voilà. Alors peut-être on pourrait dire, il vaut mieux que ça soit un peu, un minimum verbalisé, hein, comme fait Gropius. Il fait les plans de son théâtre, après tout, ça pourrait suffire pour une thèse en architecture. C'est pas plus mal s'il y a, c'est le cas, un petit texte de 15 pages qui explicite et qui fait que si on regarde le plan et qu'on le lit, on se trompe pas, on est bien en correspondance avec les intentions de monsieur Gropius. Mais on peut aussi dire que ce qu'il faut faire pour qu'il soit attesté qu'on est chercheur, c'est autre chose qu'un quelque chose, une chose, et c'est quand même quelque chose, mais cette chose aura la particularité d'être un texte. Et on dit, pour qu'on puisse attester de quelqu'un qui, ou elle, est un chercheur, il faut que cette personne produise un texte, et ça serait le cas dans la recherche sur l'art. La recherche sur l'art, son matériau, c'est un ouvrage, un livre, une sorte de livre, on appelle ça une thèse, et la recherche avec l'art, ça pourrait être la même chose, ou ce qu'on appelait la poétique, c'était la même chose, c'est-à-dire c'était la production d'un texte. Si la validation du chercheur, sa soutenance, autrement dit, si la validation du chercheur, elle passe par seulement par l'écriture d'un texte, qu'est-ce que ce texte doit être? Et qu'est-ce que ce texte peut être? Voilà. Eh bien, je pense que demander à des jeunes gens ou des jeunes femmes si on est dans la logique institutionnelle d'aujourd'hui, qui n'est pas celle que j'ai connue moi, que quand j'étais beaucoup plus jeune, on pouvait imaginer de commencer une recherche à 40 ans, avec une expérience derrière soi. Mais depuis quelque temps, ce n'est pas comme ça, hein, plus 3, plus 5, plus 8, et même déjà avant, c'est au fond des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont conviés à entrer dans ce qu'on appelle la recherche. Est-ce que ces jeunes gens et ces jeunes femmes, par le seul fait de leur âge, ont l'expérience suffisante pour faire de la poétique au meilleur sens du terme? Voilà. Ce que j'ai dit dans mon livre, c'est que ma réponse, c'est plutôt non. Ça ne serait pas la même chose s'il s'agissait, et d'ailleurs je pense que chez Valéry c'est ça, chez Paul Valéry, hein, chez Valéry justement, il s'agit d'un moment de quelqu'un qui peut se retourner sur son expérience artistique parce qu'il ou elle a enduré suffisamment l'expérience en question. Mais est-ce que c'est possible à 20 et quelques années? Voilà. Est-ce qu'on a pu faire assez œuvre? Est-ce qu'on a pu faire assez œuvre pour que le fait de se retourner sur cette expérience, qui est un peu quand même, je crois, l'idée de la poétique, donne lieu à un texte qui serait un texte de recherche au sens où il déplacerait des hypothèses. Voilà. Et ce point est pour moi décidément capital, le déplacement d'hypothèses. À choisir, donc je pense qu'il vaut mieux chercher à s'appuyer sur une expérience de l'art, fût-elle encore restreinte, mais suffisante pour envisager de déplacer des hypothèses, que de chercher peut-être à quelque chose qui est très 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 exigeant et qui s'appelle la poétique. Je ne sais pas si je vous ai répondu.
Y aurait-il d'autres questions ou remarques? Nous en sommes déjà rendus à notre terme théorique de la fin de la conférence, mais puisque c'est un livre qui s'intitule Contre-temps, on peut le prendre encore un petit peu. Merci Karine pour le chat et remerciements. Moi j'avais peut-être une question, ce sera peut-être la dernière éventuellement, qui est toute simple justement. Le titre de ce livre est, je trouve, très beau, Contre-temps. Vous intitulez un de vos chapitres Propos intempestifs. Alors, on entend un peu le Nietzsche peut-être
un peu, pardon, j'ai pas
Nietzsche, le Nietzsche des propos inactuels.
Hein. Oui. Voilà.
La question est peut-être même, je dirais, très naïve. Pensez-vous qu'il soit possible dans la recherche en art ou avec l'art, mais disons la recherche en art puisque c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, d'arriver à trouver, peut-être par la spécificité de ce travail en l'art ou avec l'art, de trouver ce temps du contre-temps? Est-ce qu'il y aurait une spécificité de ce type de recherche, de ce compagnonnage avec l'art, de cette expérience de l'art, qui nous permettrait d'accueillir l'inactuel, alors même que l'injonction qui est la nôtre tous en ce moment, c'est de ne pas prendre le temps.
Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce que vous dites me fait penser à quelque chose. Je ne pense pas que ce à quoi je pense soit une réponse à ce que vous dites à l'instant. Et pourtant, ce que vous dites me fait penser à ce que je vais dire quand même, qui est la chose suivante. C'est que nous sommes d'accord pour dire que il faut de l'intempestif, que peut-être il est important que parmi nous tous les humains, il y en ait quelques-uns, au moins quelques-uns, qui soient inactuels, au sens de Nietzsche, en effet, intempestifs, etc., et qui supportent ça. Parce que tout ça, il faut le vivre. Voilà. Qui supporte d'être intempestif, parce que ça veut dire quand on... Bon, ça, si on est dans le champ de la science, par exemple, même si ça m'est arrivé de discuter avec Bruno Latour, je trouve que dans son livre « Éloge de Pandore », il montre ça très très bien, comment ça a été difficile pour Pasteur de soutenir les hypothèses qu'il était en train de soutenir. Ça veut dire... C'est une épreuve, hein, de décaler des hypothèses. Voilà. Même si Pasteur ne se revendiquait pas chercheur comme Claude Bernard. Bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut supporter. D'ailleurs, je pense que le langage est quand même intéressant. On dit bien soutenance de thèse. Soutenance. Hein, il faut soutenir ce qu'on fait quand on fait une thèse. Ce n'est pas la même chose que passer un examen. Voilà. Il y a un engagement qui n'est pas le même de la personne dans l'expérience en question. Donc, sûrement, c'est bien qu'il y ait un certain nombre parmi nous qui soient intempestifs, inactuels, et qui supportent l'expérience de l'intempestivité et de l'inactualité, parce que, d'une certaine manière, ça contribue par le déplacement des hypothèses, du savoir, de l'expérience, est-ce que on ne vit pas bloqué dans une situation donnée? Non, certainement. Mais pour autant, je ne pense pas, ça c'est un autre désaccord avec l'injonction à la recherche, qu'il faut que tout le monde soit inactuel. Voilà. Peut-être tout le monde ne le peut pas supporter l'incertitude, et même peut-être la vie elle-même des hommes ne supporterait pas que nous soyons toujours tous en situation de recherche. C'est-à-dire que certainement, pour un certain nombre d'éléments tout à fait essentiels et respectables de la vie, il faut s'appuyer sur quelque chose. Et par exemple, je ne dis pas, dans tout ce que j'ai essayé de dire ce soir ou ailleurs sur la question de la recherche, je ne dis pas que s'exprimer, créer, si on veut faire une œuvre de plus selon l'expression qui est dans mon livre, en tout cas travailler à l'expression artistique, je ne pense pas que ce soit en tant que tel de la recherche, mais c'est quelque chose de tout à fait essentiel à l'humanité. Donc je pense qu'il est tout à fait essentiel qu'il y ait des chercheurs et qu'il n'y en ait pas. Autrement dit, qu'il y ait peut-être de l'art qui accepte de réfléchir sur ces hypothèses, et de l'art dont l'engagement soit plutôt de l'ordre de l'expression. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, ceux qui s'engagent là-dedans ne sont pas, sont pas des chercheurs. Et ceux-là ne sont pas intempestifs. Ils font des œuvres pour qu'elles soient vues, ils font des spectacles pour qu'ils soient vus, ils font des films pour qu'on les regarde, etc. etc. Voilà. Simplement, c'est une autre tâche. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu. En fait, je ne crois pas. Mais ce que vous avez dit m'a fait penser à ça. Alors, je le dis.
Je vous remercie. Y a-t-il des questions que vous auriez ou des remarques ou des remerciements qui vous empêcheraient de dormir si vous ne les dites pas ?
Alors, Victoria voulait parler.
Oui, je sais. J'ai deux questions parce que je vous remercie. D'abord, c'était super. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette distinction que vous faites entre étudier et chercher, apprendre, étudier, chercher, parce qu'en fait, je n'arrive pas à faire la distinction. Pour moi, c'est un cycle. Un cycle perpétuel. C'est pas étudier toute seule, c'est pas chercher toute seule. J'ai l'impression que c'est un cycle. Mais en fait, ça, c'est mon impression. Donc, je n'arrive pas à. Bien sûr qu'il y a des temporalités différentes en chaque cas, mais en fait, je n'arrive pas à le voir en fait, avec la distinction que vous faites entre le quoi. Parce que j'ai l'impression que. Puis vous le faites par rapport aux licences, master, doctorat. Mais j'ai l'impression que dans la recherche, il y a quand même un temps d'apprentissage, il y a quand même un temps d'étude. Et c'est quelque chose, en fait, qui, d'après mon expérience, c'est une traversée en perpétuel, en fait. Il y a tout le temps plus. Et deuxième question, juste par rapport à ce que vous venez de dire, vous faites la différence entre recherche pour créer une œuvre, mais dans la recherche, et recherche, mais avec l'expression. Et donc, en fait, moi, je suis en recherche-création, en art plastique. Donc, je suis quand même, je travaille tout le temps avec mon expression, d'une manière plus méthodique, mais je pense tout le temps à qu'est-ce que va penser le spectateur, cet spectateur invisible, en fait. Et je pense à ça perpétuellement. Donc, d'une manière ou d'une autre, je veux remettre en question certaines conditions dans le domaine de l'art textile, c'est mon cas, et je cherche aussi à m'exprimer.
Je vous entends plus, là.
Ah, pardon.
J'ai pas entendu.
En même temps, vous ? Ah, là, en même temps ? Oui. Et en fait, je sais pas, cette traversée, en fait, c'est entre la recherche que je fais, mais aussi l'expression. Donc, c'est très difficile faire la distinction dans une recherche en art plastique, dans ces cas-là. Donc, j'aimerais bien, en fait, si vous pouvez revenir sur ce point-là, vous faites cette distinction, en fait, des recherches pour vraiment très méthodique et recherche pour juste l'expression. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est perpétuel aussi, dialogue?
Est-ce que ça, c'est pas
un perpétuel dialogue?
Un perpétuel dialogue entre eux?
Entre expression et recherche pour remettre en question certaines conditions de l'œuvre, en fait. C'est pas quelque chose qui dialogue perpétuellement dans son recherche en doctorat. Est-ce que c'est clair?
On peut penser comme vous dites. Hein. J'ai rien à dire à ça. Sinon que moi je ne pense pas comme ça. Je crois pas. Enfin, si j'ai bien compris, est-ce que je voyais pas. Moi, j'ai pas eu votre image à l'écran et j'avais juste un son un peu difficile. Mais si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu ce que vous dites, je dirais simplement moi mon expérience. Mon expérience personnelle, en général, un certain passage par l'art quand même, pour ce qui me concerne. Et puis aussi mon expérience, alors je vais utiliser l'expression officielle de directeur de recherche, parce que je l'ai quand même été un peu, même beaucoup, enfin, m'amène à penser, comme j'ai essayé de vous dire ce soir plus tôt, que ça se résumerait par la phrase « on ne peut pas faire tout en même temps ». On ne peut pas aller dans une direction et dans une autre en même temps. Voilà. Et c'est pour ça que je, y a d'autres raisons, mais que je pense qu'il faut distinguer. Alors, je ne vais peut-être pas revenir par le détail sur la distinction entre apprendre, étudier, chercher. D'une part, parce que j'ai un petit peu répondu à Vincent Deville tout à l'heure sur cette affaire. D'autre part, parce que vous pouvez trouver donc sur Internet le détail, enfin une conférence qui aura duré plus d'une heure sur le sujet avec un texte également. Donc, est-ce que je peux me permettre de vous y renvoyer pour peut-être que la distinction soit davantage précisée. Mais en revanche, ce que j'ai entendu dans votre peut-être votre objection, c'est quelque chose qui m'avait été dit. La conférence était à Bordeaux, hein, sur apprendre, étudier, chercher. Ce qui m'avait été dit là-bas tout de suite, c'est que justement peut-être il serait de bonne pédagogie de ne pas spécialiser l'élève dans l'apprentissage, l'étudiant dans l'étude et le chercheur dans la recherche, que c'est bien d'être pluriel, on pourrait dire les choses comme ça. Bon, je reconnais là-dedans, si vous voulez, tout un trend pédagogique, toute une phase historique de la pédagogie que je date, du début des années 80, jusqu'à aujourd'hui, et qui est assez sur cette position, qui est historiquement sur cette position, qui par exemple consiste à dire qu'un enfant de classe élémentaire, ça peut, alors à son niveau, être un chercheur. Alors ça, il faudrait faire un travail. Dans un moment où j'étais beaucoup plus jeune, j'ai participé à la fondation d'une revue de philosophie de l'éducation, et j'ai beaucoup travaillé pendant 13 ans de ma vie dans ce champ-là. Je pense qu'il faudrait quand même revenir sur les présupposés de cette position pédagogique qui conduit à dire, par exemple, des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est insensé. Je dis simplement qu'il faut s'interroger sur les fondements, pareil, sur les hypothèses de ce type de... Est-ce qu'on peut être un chercheur quand on est en train d'apprendre ? Alors, il y a une réponse à ça qui consiste à dire, pour celui ou celle qui apprend, le jour où j'apprends quelque chose, surtout si je l'ai appris de moi-même, sans que quelqu'un m'y conduise, qui serait, disons, l'idéal de la pédagogie non directive, j'ai appris quelque chose de moi-même, et donc pour moi c'est comme si c'était une recherche. Je pensais quelque chose, j'ai appris quelque chose, c'est-à-dire je ne pense plus comme je pensais avant, donc j'ai mené une recherche. Ma réponse, c'est de dire, cette recherche est une recherche seulement pour vous, cette recherche est une recherche seulement pour celui ou celle qui apprend, voilà. Mais je pense que j'ai laisser passer cette expression ce soir, j'espère bien en tout cas que je vais laisser passer, il faut que ça soit la recherche, une recherche pas pour celui ou celle qui fait de la recherche seulement, il faut que ça soit une recherche pour nous, enfin, d'abord pour d'autres que soi, et par extension, pourquoi pas, au-delà d'un petit cercle c'est pas des initiés, mais disons un petit cercle de chercheurs. Mais c'est très très important que la recherche ait quelque chose qui soit objectif. Voilà. Et ça c'est capital. Voilà. Et donc il faut s'assurer que le déplacement d'hypothèses en quoi consiste la recherche, c'est pas simplement les hypothèses de la personne, c'est bien les hypothèses de la science en général, de l'art en général, de toute une discipline. Voilà. Mm. Et ça, je pense que c'est, je pense décidément que c'est un travail spécifique. Voilà. Et que ce travail a pour condition de possibilité des études. Maintenant, si vous voulez que je sois un peu caricatural, oui, en effet, je serais d'accord pour qu'on discute sur l'idée suivante, qui serait, j'ai dit tout à l'heure, un vrai cahier de revendications pour une université qui, de toute façon, en ce moment, va mal. Donc, le mieux serait qu'on ne continue pas comme on est en train de faire. Eh ben, je dirais, oui, ça va nous faire revenir sur des hypothèses qui sont celles de toute une génération, la mienne, mais ces hypothèses, enfin, la mienne ou ce que la mienne a subi. Il faudrait voir. Mais en gros, si vous voulez, je pense qu'on est en train de demander aux étudiants quelque chose de très très compliqué, c'est d'être à la fois en train d'apprendre, d'étudier et de chercher. Et qu'ils n'en peuvent plus, que ce n'est pas le malaise dans lequel ils sont ou elles sont, ce n'est pas seulement lié à la situation sanitaire ou à la situation économique, c'est lié aussi à un excès d'exigence de l'université elle-même. Voilà. Donc je dirais, jusqu'à la L3, on apprend. Master 1, Master 2, on étudie. Et le master n'est pas un diplôme d'entrée dans la recherche, mais un diplôme de fin d'études. Voilà. Et ensuite, on discute des conditions d'accès à la recherche. Et je pense qu'il faut, justement, il faut refaire un beau diplôme de fin d'études, un diplôme de fin d'études qui ne soit pas pensé comme un diplôme intermédiaire, parce qu'on dit plus 3, plus 5, plus 8, vous dites 5, ça n'est que 5, c'est entre 3 et 8, donc qu'est-ce que c'est que ce 5-là? Mais non, il faut faire du master, à mon avis, un beau diplôme de fin d'études que les étudiants soient fiers de posséder, et la recherche, c'est autre chose que cette étude-là, et peut-être il n'y a pas à faire dans la vie que ça, de la recherche. Il en faut, c'est ma réponse précédente, mais il faut aussi autre chose dans la vie que la recherche, il faut de la place pour ça. Il faut de la place, je répète, pour l'expression artistique, mais l'expression artistique, ça n'est pas en soi de la recherche. En tout cas, je ne le pense pas.
Merci beaucoup.
Je crois que nous pouvons peut-être nous arrêter sur ces paroles-là, qu'il n'y a pas que la recherche dans la vie, il y a l'art dans la vie aussi. Voilà, en tout cas, je vous remercie, Pierre-Damien Huyck, pour votre disponibilité, pour votre...
Vous permettez, je pense juste un mot, parce que je regretterai de ne pas l'avoir dit après. Je pense que si on admet ça, évidemment, il y a un côté un peu drôle à la phrase, il n'y a pas que la recherche dans la vie, mais que si on admet ça, on se libère de l'injonction. Voilà. On se libère de l'injonction qui nous a fait, je pense, sous le poids de laquelle nous avons plié dans une certaine mesure. Voilà. C'est pour ça que c'est quand même important de penser l'équilibrage des diplômes. Voilà, excusez-moi, je...
Pas du tout. C'était intempestif, mais tout à fait bienvenu. Ouais, voilà. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont restés, à ceux qui sont arrivés en cours de route. Un enregistrement a eu lieu, donc cela nous permettra non seulement de vous réécouter, mais également pour ceux qui n'ont eu qu'un bout de la conférence, de pouvoir ultérieurement en bénéficier, en profiter. Et bien sûr, je vous invite aussi à aller visiter, comme on dit en français, le site de Pierre-Damien Huyck où se trouvent des textes de conférences tout à fait précieux et bien sûr à vous procurer, si vous ne l'avez pas encore fait, ce fameux livre, voilà, Contre-temps, qui est un livre non seulement qui se lit mais qui se relit aussi. Donc merci beaucoup à vous, merci à tous.
Merci à vous.
Et puis à une prochaine fois, j'espère que cette rencontre aura des suites.
Oui, j'espère qu'on prendra au moins un café.
Oui.
Un séjour. En tout cas, je remercie ceux que j'ai pu voir pendant ces deux heures de travail. C'était très, très précieux de vous voir. Voilà. Merci beaucoup.